Vous écoutez C'est pour ma pomme, le podcast qui parle des produits Apple et de leurs usages, mais pas que. Je suis David, bienvenue dans un nouvel épisode. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 70 du podcast. Comme chaque année, en début d'année, je me livre à l'exercice, somme toute pas très facile, des prédictions, des rumeurs de ce qu'Apple pourrait vendre ou du moins annoncer en cette année 2020. Alors oui, bien sûr, cet épisode sera basé sur un gros mélange de rumeurs, de prédictions, mais aussi de mes attentes, des produits que j'attends énormément pour cette nouvelle année de la part de la marque à la pomme. Comme chaque année aussi, je pense qu'il faut clairement pas s'attendre à des choses extraordinaires de la part d'Apple. Bien sûr, on aura droit à de très bonnes itérations des produits déjà existants, mais des grosses nouveautés qui révolutionneraient le marché, on peut être bien surpris, mais je pense clairement pas que ça n'arrivera encore cette année en 2020. On sait qu'Apple se base sur son propre calendrier, et non pas sur le calendrier des autres constructeurs, et que Apple, à part de rares exceptions près, ne sort ses produits que quand ils sont réellement matures. Et il y a beaucoup de rumeurs qui se basent sur des technologies qui, d'après moi, ne sont encore pas assez matures pour le marché, pour qu'Apple s'y intéresse, ou du moins pour qu'Apple en fasse des produits vendables et mettables sur le marché pour le grand public. Commençons par le produit que j'utilise le plus de la part d'Apple, l'iPad. Le dernier modèle d'iPad date de 2018, les derniers modèles d'iPad Pro datent de 2018, donc sans nul doute, on va avoir droit à un nouveau modèle d'iPad Pro cette année. Mais qu'est-ce qu'Apple pourrait implémenter sur un tel modèle ? Alors, les rumeurs parlent d'un triple capteur à l'arrière, à l'image de ceux qui ont été mis sur les derniers iPhone 11 Pro. À mon avis, le triple capteur n'a pas réellement de gros intérêts sur un iPad. On sait que l'iPad va aussi beaucoup servir à la réalité augmentée et que le troisième capteur qui a été ajouté à l'iPhone 11 Pro est un ultra grand angle. Donc, je vois clairement pas l'intérêt d'un tel capteur pour la réalité augmentée. Si augmentation des capteurs il doit y avoir sur l'iPad Pro, je pense plutôt qu'Apple ira sur une technologie prouvée qui marche depuis plusieurs années, qui l'utilise depuis plusieurs années, c'est le double capteur présent depuis les iPhone 10 et encore présent sur les entrées de gamme cette année, les iPhone 11. Et je pense plutôt qu'Apple ira dans ce sens-là s'il doit augmenter les capteurs à l'arrière de l'iPad. D'autres nouveautés en termes d'hardware sur l'iPad, je pense pas clairement cette année. L'iPad depuis, du moins les iPad Pro depuis 2018, étaient des machines qui étaient quand même assez complètes maintenant avec l'ajout du support des disques durs et tout un tas d'autres nouveautés qui ont été implémentées en 2018. Au niveau hardware, je pense que c'est une machine assez complète. Bien sûr, tout peut encore être un peu amélioré, mais je pense pas de grosses nouveautés, du moins en termes de hardware cette année. Si grosses nouveautés il doit y avoir, ça sera plutôt en termes de software. Apple a implémenté énormément de choses avec l'arrivée d'iPadOS, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de failles et qu'Apple pourrait implémenter beaucoup de choses et améliorer surtout beaucoup de choses sur iPadOS. Mais ça, j'en parlerai un peu plus loin dans le podcast. C'est à peu près tout ce que je pense va arriver sur l'iPad. Je pense qu'on aura droit à une très bonne itération de l'iPad cette année avec, comme je le dis, de bonnes améliorations, mais pas de grosses révolutions. Et ça va être un peu le fil de cet épisode. Je pense qu'à part de rares exceptions près, on n'aura pas droit à d'énormes révolutions sur les produits cette année. Deuxième produit dont je voudrais parler, l'iPhone. Comme tous les ans, on en est sûr, Apple va présenter des nouveaux produits, des nouveaux iPhones en septembre. Cependant, cette année, pour moi, sera un peu différente des années précédentes. Je pense qu'on aura aussi droit à une présentation d'iPhone, au printemps, en même temps que les iPad Pro, sous la forme de celui qu'on appelle depuis maintenant pratiquement 2 ans, 3 ans, l'iPhone SE2. Alors, cet iPhone n'aura absolument rien de révolutionnaire. Ça sera seulement un iPhone 8 avec les composants d'un iPhone 11 pour un prix un peu moindre. Mais en termes, cet iPhone deviendrait l'entrée de gamme de chez Apple à un prix beaucoup moins cher. Et on sait que le marché demande beaucoup ce genre de téléphone. Beaucoup de constructeurs le font. Donc voilà, pour agrandir un peu encore, on sait que les iPhones ont un peu plus, je dis pas que les iPhones ne se vendent pas, mais les iPhones ont un peu plus de mal à se vendre depuis quelques années. Donc voilà, si Apple pouvait étendre un peu sa gamme vers ses iPhones moins chers, vers ses iPhones entre gros guillemets bas de gamme, je pense que clairement que ça serait une bonne chose. Donc voilà, on irait vers un iPhone un peu plus petit, un peu moins cher, mais avec des produits qui ont déjà été utilisés, rodés par Apple, le châssis de l'iPhone 8 et les composants de l'iPhone 11. Passons maintenant aux véritables nouveaux iPhones, dont la présentation aura lieu bien sûr en septembre, comme tous les ans. Maintenant, c'est récurrent chez Apple et ça ne changera clairement pas cette année. Alors, la rumeur voudrait qu'Apple présente 5 nouveaux iPhones cette année. Pour ma part, je ne crois pas du tout, mais alors du tout à cette rumeur. Pour moi, Apple va rester sur le modèle précédent, c'est-à-dire un iPhone entrée de gamme. Alors, entrée de gamme, c'est toujours pareil. Si Apple présente un iPhone SE2 en début d'année, l'iPhone qui remplacerait l'iPhone 11 ne serait plus un entrée de gamme, ça serait simplement un milieu de gamme, ça serait une alternative au très haut de gamme que sont les iPhone 11 et 11 Pro, les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, et qui seraient les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max l'année prochaine. En suivant le modèle qu'Apple utilise depuis plusieurs années, alors si on se base sur ce modèle-là, clairement on devrait avoir une grosse modification du design sur les iPhones cette année. On sait que Apple a toujours marché comme ça. Ils changent de design, ils améliorent un peu le hardware interne du téléphone. La troisième année, ils améliorent un peu la photo. Et l'année d'après, ils changent le design. Donc, c'est cette année que ça devrait arriver. L'iPhone 12, on va l'appeler comme ça, l'hypothétique iPhone 12 devrait avoir un tout nouveau design. D'après moi, le design devrait clairement se rapprocher des derniers iPad Pro. Beaucoup d'images sont sorties sur le net. Alors bien sûr, ce ne sont pas des images tirées de chez Apple. C'est des études faites par des designers, mais ça va clairement dans ce sens-là. On irait dans un design un peu plus carré, plus dans le style des iPad Pro, et pour remonter plus loin, des iPhone 4 et des iPhone 5. Concernant les autres points de design, beaucoup d'analystes tablent sur la disparition de l'encoche cette année. Alors, je ne doute pas que c'est une chose qui pourrait totalement arriver, mais j'ai quand même beaucoup de mal à croire qu'Apple abandonne aussi vite une technologie comme celle-là. Sachant que beaucoup de ses concurrents essayent de la copier en plus. On sait que depuis la sortie de l'iPhone 10 et du Face ID, énormément de concurrents à l'iPhone ont essayé de sortir... des systèmes de reconnaissance faciale égales, du moins essayer de faire égalité avec le Face ID, ils n'y sont pas arrivés. Apple a une technologie très bonne, on va pas se le cacher, très éprouvée de reconnaissance faciale, et cette technologie, faut bien la placer quelque part. Elle rentre dans le Face ID, donc j'ai pas franchement l'impression qu'Apple va abandonner cette technologie maintenant. Alors pourquoi pas la raccourcir un peu, qu'elle soit un peu moins visible sur l'écran de l'iPhone, ça je suis totalement d'accord. La faire disparaître complètement, j'ai beaucoup de mal à le croire. Autre technologie qui pourrait arriver sur ces nouveaux iPhones, l'USB-C. On attend toujours, depuis maintenant 2 ans, l'arrivée de l'USB-C sur les iPhones, qui permettrait une homogénéité par rapport au reste de la gamme, au MacBook Pro et aux iPad Pro. Eh ben c'est pareil, c'est un peu comme le Face ID. On sait qu'Apple, quand ils tiennent une technologie et que c'est une technologie qui est éprouvée, ils ont énormément de mal à s'en séparer. Le Lightning, ça fait plusieurs années que tout le monde demande à Apple d'abandonner le Lightning pour passer à l'USB-C. Et ils ont beaucoup de mal. Alors pourquoi pas implémenter cette technologie USB-C cette année? Ça serait possible, ça serait clairement possible. Mais j'ai clairement du mal à voir arriver cette technologie sur les iPhones, du moins pour l'instant. Autre grosse rumeur concernant ces iPhones haut de gamme, ils seraient tous 5G. Alors là encore, j'ai énormément de mal à le croire. On sait que la 5G, dans la plupart des pays, en est encore à ses balbutiements, à part certains pays comme certains pays asiatiques, ou comme les États-Unis. Et encore, aux États-Unis, c'est plus de la 4G plus que de la 5G totalement. Mais dans les pays européens, la 5G en est encore clairement à ses balbutiements, ne serait-ce qu'en France. Le seul endroit où la 5G d'Orange est clairement utilisable, c'est dans une seule ville, c'est à Marseille, et c'est autour du Stade Vélodrome, donc ça fait vraiment pas une grosse place pour utiliser la 5G. Donc clairement, j'ai pas l'impression qu'Apple va. Je vais peut-être passer pour le mouton noir dans ce podcast, mais j'ai clairement pas l'impression qu'Apple va encore implémenter la 5G sur ses modèles de cette année. Je pense plutôt qu'Apple va rester encore sur de la 4G ou du moins sur de la 4G+, et que Apple va se garder la 5G comme grosse nouveauté sur le modèle de l'année d'après, sur les hypothétiques iPhone 11, 12S, ou je sais pas comment ils les appelleront, mais voilà, je pense que ça sera la 5G, la grosse nouveauté de cette future gamme d'iPhone. Mais je la vois pas franchement arriver encore pour cette année. On a eu aussi droit, alors dernièrement, à des rumeurs farfelues comme quoi Apple pourrait annoncer, alors non pas commercialiser, mais annoncer un iPhone pliable cette année, ou du moins montrer des choses sur un tel appareil. Alors là, clairement, je vais me jeter à l'eau et je vais donner mon avis bien tranché sur la chose. Ne rêvez pas, on n'aura pas droit à un iPhone pliable cette année. C'est une technologie qui n'est encore pas du tout au point, et on l'a vu clairement avec les Galaxy Fold. Alors bien sûr, c'est une étude de style, ça a fait plaisir à beaucoup de youtubeurs, ça a fait beaucoup plaisir à beaucoup de journalistes, mais c'est une technologie qui n'est pas du tout au point, et Apple ne sortira, du moins pour l'instant, aucun téléphone dans ce sens-là. Enfin, je ne vois pas du tout Apple sortir un appareil dans ce style-là. Et j'irai même plus loin. J'ai du mal à croire que les téléphones pliables, ça ne soit pas une mode dans le style des écrans 3D sur les télés il y a plusieurs années. J'ai franchement pas l'impression que le grand public trouvera un usage et trouvera une utilité à ce type d'appareil. J'avais une réflexion il y a pas longtemps, mais si vous vous rappelez un peu, juste avant l'arrivée des smartphones. Les quelques mois, quelques années avant l'arrivée des smartphones et surtout avant l'arrivée de l'iPhone, ce qu'on appelait auparavant les dubphones, dans les derniers modèles de ces téléphones-là, on avait eu droit à plein d'essais de plein de choses. On avait droit à des clapets qui se retournaient dans un sens, des clapets qui se retournaient dans l'autre, des caméras qui étaient de plus en plus grosses sur ces petits téléphones. Et j'ai l'impression que là, depuis un an et demi, c'est ce qu'on est en train de vivre dans le monde du smartphone. J'ai l'impression que les constructeurs n'ont encore pas trouvé les bonnes itérations, les bonnes choses pour le futur du smartphone, et qu'ils testent beaucoup de choses, qu'ils testent différentes choses dans plusieurs styles différents, et que les écrans pliables en sont l'une d'elles. Mais j'ai pas franchement l'impression qu'on ira dans ce sens-là. J'ai pas l'impression que le grand public va vouloir de ces appareils, surtout au prix où ils sont, dans le futur. Je pense qu'on aura droit à un futur des smartphones, que le smartphone va se réinventer, va changer. Mais j'ai pas franchement l'impression que ça sera dans ce sens-là, du moins. Voilà, c'est à peu près tout, ce que je voulais dire sur les iPhones. Comme vous le voyez, pareil que pour les iPads. Je pense pas qu'on aura droit à de grosses nouveautés, un changement de design, mais ça, c'est dans la ligne droite de ce qu'Apple fait depuis les tout premiers iPhones, donc c'est totalement normal. En termes de nouveautés, oui, comme l'iPad, on aura droit à pas mal de nouveautés software qui viendront d'iOS. Mais en termes de hardware, j'ai pas franchement l'impression que les grosses nouveautés qu'on attend cette année seront encore présentes en 2020. Troisième produit dont je voulais vous parler, l'Apple Watch. L'Apple Watch est maintenant un produit, clairement, on va pas se mentir, un produit T mature. Tant en termes de technologie qu'en chiffre de vente. On le voit très bien, l'Apple Watch est la montre la plus vendue du marché, même devant certaines montres non connectées. Donc, je pense clairement que là, maintenant, on est arrivé à un niveau de maturité qui va permettre à Apple, de tester de nouvelles choses, tant au niveau design de l'Apple Watch qu'au niveau hardware, qu'au niveau fonctionnalité. Au niveau design, je pense clairement que cette année, on va avoir droit à une Apple Watch un peu plus fine, un peu plus légère, avec peut-être un peu plus d'autonomie, même si l'autonomie. Et moi, je vous parle, j'ai une Apple Watch encore série de 4. J'ai pas sauté le pas l'année dernière, mais l'autonomie est totalement utilisable encore cette année. Enfin, avec depuis le modèle, on va dire modèle 4, l'autonomie est totalement utilisable. Vous pouvez largement faire une journée, même voire presque deux, avec une recharge complète. Donc l'autonomie est bonne. Bien sûr, on n'est pas au niveau d'une montre pas connectée, mais après, je n'ai pas l'impression que ça soit réellement comparable. Donc, je pense, comme je le disais, que le produit est assez mature pour voir un nouveau gros design de l'Apple Watch, de grosses nouveautés, tant au niveau design qu'au niveau fonctionnalité. Passons maintenant à la gamme Mac. L'iMac n'ayant pas été mis à jour depuis 2012, je pense que ça sera l'un des premiers produits dans cette gamme, dans la gamme des ordinateurs d'Apple, qui sera redesigné cette année. Du moins, il en aurait bien besoin. Alors, beaucoup d'analystes et beaucoup de journalistes tablent sur un design qui serait similaire aux derniers écrans du Mac Pro. J'ai un peu de mal à croire ça. Je pense que déjà, si on reste sur un design qui est similaire au design actuel, mais que l'écran est un peu plus grand, que les bords sont un peu plus fins, qu'on a des nouveautés en termes de clavier peut-être, l'arrivée de la touch bar au niveau des claviers de l'iMac, je pense déjà que ça sera déjà une grosse nouveauté en termes d'iMac. Alors, comme je le disais au début, hein, je vais peut-être passer pour la personne qui n'aime pas du tout Apple, et c'est totalement faux parce que c'est une marque que j'adore, et vous le savez si vous écoutez le podcast depuis longtemps, mais j'ai l'impression que beaucoup de journalistes s'attendent à énormément de choses de la part d'Apple, et quand les keynotes arrivent, on est très souvent déçus. Alors que les nouveautés, et ça a toujours été comme ça chez Apple, Apple implémente ces nouveautés par petites touches, des nouveautés qu'on attendrait, qu'on se dit ah c'est obligé, ça va arriver cette année, ben Apple va les disséminer au fur et à mesure des 3-4 prochaines années. Donc même au niveau des ordinateurs, j'ai pas l'impression qu'on va avoir droit à des grosses révolutions cette année. Donc au niveau de l'iMac, je pense qu'on aura juste droit à un redesign au niveau de l'écran, peut-être à un écran un peu plus grand dans le même châssis, peut-être des nouveautés au niveau de la caméra, peut-être une caméra un peu plus, au lieu d'avoir la caméra 720p qui clairement, Apple se fout de notre gueule avec cette caméra-là, mais je pense que ça n'ira pas plus loin en termes de nouveautés sur l'iMac. Au niveau des MacBook, par contre, je pense qu'on va avoir droit à un glissement de la gamme. On sait que en fin d'année 2019, Apple a présenté son MacBook Pro 16 pouces qui a énormément plu à pas mal de monde. Et je pense, comme je le dis, qu'on va avoir droit à un glissement de la gamme. C'est-à-dire que comme la gamme était avant le 15 pouces et le 13 pouces, le 15 pouces ayant été remplacé par le 16 pouces, qui est clairement le même ordinateur, peut-être un peu plus puissant, mais dans le même châssis du moins, avec un écran un peu plus grand, je pense que ça va s'étendre au 13 pouces cette année, et que le 13 pouces devrait passer à un 14 pouces dans quasiment le même châssis et devrait avoir les nouveautés qui ont été disponibles sur le 16 pouces, c'est-à-dire le nouveau clavier, entre gros guillemets nouveau clavier, parce que on va pas se le cacher, c'est le clavier qui était là avant le clavier papillon qui a déplu à tout le monde. Donc voilà, je pense que le glissement va avoir lieu comme ça. Je pense que toutes les nouveautés qu'on a eu droit sur le 16 pouces va s'étendre sur le 13 pouces, et on aura une toute nouvelle gamme 16 pouces, 14 pouces des MacBook Pro. Au niveau des MacBook Air maintenant, je pense clairement que les derniers MacBook Air qui ont été présentés l'année dernière, vivent leurs dernières heures. Je vais vous expliquer pourquoi, mais je pense que clairement, et on en a entendu parler depuis des années, on sait qu'Apple travaille sur un Mac, sur une puce ARM pour les Mac, et je pense que cette puce-là arrivera sur les Mac portables en premier. Donc, je me dis que quel Mac serait le plus approprié pour implémenter une telle puce ? Eh ben, ça serait un remplaçant du MacBook Air, un Mac ultra portable sans ventilateur, qui pourrait permettrait d'embarquer une telle puce. Donc voilà, même si ça n'arrive pas cette année, je pense qu'on va aller dans ce sens-là. Je pense peut-être qu'il y aura des annonces dans ce sens-là d'un nouveau MacBook entrée de gamme. Alors entrée de gamme, bien sûr, ça restera un MacBook assez cher, mais d'un MacBook qui ferait le début de la gamme avec une puce ARM. C'est à peu près tout ce que je pense qui devrait arriver en termes de produits majeurs chez Apple. Alors il y a d'autres produits bien sûr qu'Apple pourrait annoncer cette année qu'on entend depuis pas mal de temps, les Apple Tags entre autres qu'on en a entendu parler pratiquement toute l'année dernière, Je pense clairement que ces tags devraient arriver en tout début d'année 2020. J'ai l'impression qu'ils vont les présenter à la première keynote en mars, à la présentation des iPad Pro. Il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé des traces dans les derniers OS d'Apple qui relatent ces ustensiles-là. Donc, à mon avis, clairement, là, on est dans une phase de finalisation pour ces produits et ils devraient être annoncés en tout début d'année. Les AirPods, maintenant, vous savez que les AirPods est un produit que j'adore depuis les tout premiers modèles. Clairement, j'ai pas l'impression qu'on va avoir droit à un nouveau modèle cette année. Alors, j'adorerais, et j'en parle depuis pratiquement 2 ans, mais j'adorerais avoir une nouvelle couleur sur les AirPods. Vous savez que une des grosses attentes qui n'a rien d'exceptionnel, hein, mais une des grosses attentes que j'ai chez Apple, c'est des AirPods en mode sombre. Donc peut-être, si nouveauté il doit y avoir sur les AirPods cette année, eh ben ça sera une nouvelle couleur, mais j'ai pas l'impression qu'on aura droit à un nouveau modèle d'AirPods. Apple a sorti quand même cette année, en 2019, enfin l'année dernière, en 2019, les AirPods deuxième génération avec le boîtier de charge sans fil, et en fin d'année, les AirPods Pro. Donc voilà, je pense que là, ils peuvent se donner une année tranquille, bah, pour imaginer d'autres fonctionnalités sur ces écouteurs, même si, on va pas se mentir, des fonctionnalités pour des écouteurs, il n'y en a pas 36 000. Peut-être un nouveau design, mais dans 1 ou 2 ans. Donc voilà, en 2020, je ne pense clairement pas qu'on aura de nouveaux modèles d'AirPods. Ou s'il doit y en avoir, ça sera pour étendre un peu la gamme, c'est-à-dire de nouveaux coloris, pour voilà, pour en vendre plus, mais pas de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux designs. Autre chose dont on pourrait entendre parler en 2020. L'arrivée de l'Apple Card, pardon, dans d'autres pays que les États-Unis, pourquoi pas? Dans certains pays, Apple pourrait étendre un peu l'Apple Card. Je pense clairement pas que c'est un produit qu'on verra arriver en France. Le système bancaire français n'étant pas du tout le même que le système bancaire américain, l'utilisation des Français de la carte bancaire n'est pas du tout la même que les Américains. C'est un produit qui, enfin, du moins dans sa version comme elle est là, n'arrivera jamais en France. Si elle doit arriver en France, Apple devra travailler avec certaines banques françaises, certaines banques européennes pour changer les fonctionnalités de l'Apple Card et que ça s'intègre bien au système monétaire ou au système bancaire européen. Donc voilà, je pense clairement pas, on en entendra peut-être parler en 2020, mais clairement pas pour la France. Parlons maintenant un peu, pour finir cet épisode, de contenu. On sait qu'Apple se tourne depuis plusieurs années, depuis on va dire 2 ans, vers la création de contenu, que ça soit série télé, que ça soit jeux vidéo. Pour une raison simple, c'est que les produits se vendent moins, les gens changent leur iPhone beaucoup moins souvent, donc voilà, les iPhones se vendent moins. Donc Apple essaye de passer son business model plus vers le contenu. Et je pense là, par contre, qu'on va avoir droit cette année à de grosses, grosses, grosses nouveautés au niveau contenu chez Apple. Alors déjà, je m'y attendais pas. Je l'avais dit dans un précédent épisode, je m'attendais pas à grand-chose d'Apple TV Plus. Je savais que certaines séries étaient pas mal, mais je m'attendais pas à grand-chose. Et je dois avouer que certaines séries d'Apple TV Plus m'ont quand même pas mal scotché, que ça soit The Morning Show, que ça soit For All Mankind. Donc je pense qu'Apple tient une bonne chose là en termes de contenu avec Apple TV Plus. On sait aussi depuis quelques semaines qu'Apple a fait une grosse grosse acquisition en embauchant l'ancien patron d'HBO. Ancien patron d'HBO qui, sous sa gouvernance chez HBO, a eu des séries comme Game of Thrones et comme toutes les séries emblématiques d'HBO. Donc voilà, le fait qu'Apple ait embauché cette personne, alors je dis pas, on n'aura sûrement pas d'énormes, on n'aura peut-être pas toutes ces séries qui vont sortir cette année, parce que cette personne-là a été embauchée là en toute fin d'année. Mais on aura peut-être beaucoup d'annonces pour les années futures de contenu qui devrait arriver sur Apple TV+. Et ça, c'est clairement une bonne chose. En termes de contenu aussi, On peut s'attendre à ce qu'Apple propose un bundle pour assembler toutes ces offres. C'est quelque chose qui est énormément demandé par beaucoup de gens. Une offre qui rassemblerait ben, musique, arcade, Apple TV et pourquoi pas le forfait iCloud. Ça serait une bonne chose parce que même si, si les offres d'Apple, faut bien se l'avouer, sont pas forcément cher par rapport à la concurrence. On sait qu'Apple TV Plus est à moins de 5 euros alors que des systèmes comme Netflix sont à maintenant plus de 16-17 euros. Donc voilà, Apple est bien assez bien placé. Mais le fait que qu'ils sortent un bundle, ben pourrait permettre à certaines personnes d'avoir qu'une offre et pouvoir être abonné à l'ensemble des services Apple, et ça pourrait être une bonne chose pour les utilisateurs de la marque. Dernière grosse chose que moi j'attends au niveau contenu, et je vous le disais au début de l'épisode, c'est quelque chose qui concerne l'iPad Pro. Et alors, je vais pas m'en cacher, je sais pas d'où ça me vient, je sais pas d'où vient cette idée, mais c'est pour moi, je pense que c'est la chose qui pourrait arriver cette année et qui pourrait être l'une des plus grosses nouveautés qu'Apple pourrait implémenter cette année. Alors, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, mais pour moi, la grosse surprise qui pourrait arriver en 2020 chez Apple, ça serait l'arrivée de très grosses applications macOS sur iPadOS. Quand je parle de très grosses applications macOS, je pense tout simplement à des applications telles que Final Cut, Xcode et Logic. On voit bien qu'Apple, depuis plusieurs années, même déjà à l'époque de Steve Jobs, parlait de l'ère post-PC et que qu'Apple essaye de pousser de plus en plus l'iPad Pro avec iPadOS, avec tout un tas de fonctionnalités, avec la gestion des disques durs. Donc, pour moi, la dernière brique qui manque à ce système-là, ben, c'est l'arrivée de grosses applications maison, en fait. Parce qu'on le sait, et j'en ai déjà parlé, il y a de très, très, très bonnes applications qui permettent, qu'on peut utiliser sur iPadOS en remplacement des applications Apple. Je vais prendre comme exemple Final Cut. On a LumaFusion sur iPad qui est une très, très bonne application. Mais j'ai pas l'impression qu'Apple va très longtemps laisser le marché justement à ces applications-là alors qu'ils ont des applications maison qui marchent tout aussi bien. Et je vois bien, franchement, arriver comme grosse nouveauté en 2020, et ben l'implémentation de ces grosses applications macOS là sur iPadOS cette année. Alors peut-être, je vous l'avoue, peut-être pas toutes. Ça sera peut-être en 2020 Final Cut ou Xcode, et l'année d'après une autre application. C'est peut-être un processus qui va commencer cette année, mais j'ai franchement un petit pressentiment que ça pourrait être la grosse nouveauté de 2020 dans l'univers Apple. Alors, dernière petite chose, et là vraiment, après j'arrêterai parce que j'en suis déjà presque une demi-heure d'enregistrement, je vais finir par moi, mes attentes, les petites attentes que j'aurai en 2020 chez Apple. C'est des produits qui n'ont pas forcément reçu beaucoup de sollicitations du public, je sais pas trop comment dire, mais voilà, moi c'est des produits que j'utilise assez souvent et dont j'aimerais bien avoir des itérations cette année. Premier produit, si monsieur Tim Cook m'entend, si Tim Cook écoute, c'est pour ma pomme. Premier produit dont j'aurais clairement envie cette année, c'est un HomePod mini. Le HomePod est une enceinte que j'utilise tous les jours. Mais voilà, c'est une enceinte qui est quand même, alors elle est pas énorme, mais elle est quand même assez massive. Et pour la mettre dans des pièces telles que la cuisine, je préférerais à l'image des Google Home Mini, voilà, avoir un équivalent du HomePod, mais en version mini, que je puisse en mettre un peu dans toutes les pièces de la maison. Donc voilà, une chose que j'attends, le HomePod Mini, si Tim Cook m'entend, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir arriver en 2020. Autre chose que j'aimerais bien voir arriver en 2020, et clairement, je ne suis pas le seul, une amélioration de Siri. Pareil, Siri, c'est quelque chose que j'utilise tous les jours pour piloter ma domotique, pour mettre de la musique, pour dicter des messages, pour tout un tas de choses. Mais Siri est encore largement en retard sur ses concurrents. Donc et il pourrait faire beaucoup de choses. Donc clairement, une amélioration serait la bienvenue en 2020. Et je pense que ça finira par arriver de toute façon, parce que Apple, en développant tous les systèmes qu'ils développent, que ce soit le HomePod, que ce soit on sait qu'Apple va travailler pas mal sur la domotique cette année. Donc voilà, ils sont obligés d'améliorer Siri pour pousser tout cet écosystème vers le haut. Ils sont obligés d'avoir un assistant vocal qui soit à la hauteur. Dernière petite attente que j'ai. C'est des petits redesigns, mais d'applications que moi j'utilise énormément. Les applications activités, les applications maison et les applications shortcut. C'est des applications qui sont bien, hein, qui sont très utilisables, mais qui n'ont pas changé depuis leur implémentation il y a quelques années. Donc voilà, ça serait bien un petit redesign, des nouveautés, des nouvelles utilisations avec ces applications-là. Ça serait franchement une bonne chose. Donc voilà, je ne vais pas faire beaucoup plus long. Voilà comment, d'après moi, pourrait se passer l'année 2020 pour Apple. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez. Avez-vous des produits que vous préféreriez voir arriver cette année? Peut-être que c'est exactement les mêmes que les miens. Peut-être que c'est totalement différent. Peut-être que, tout simplement, vous n'attendez plus rien d'Apple. Mais n'hésitez pas, justement, à me dire, vous, ce que vous attendez d'Apple cette année. Est-ce que vous pensez qu'Apple va annoncer cette année? Tous les liens pour me contacter, pardon, sont comme d'habitude dans la description en dessous de cet épisode. Moi, je vous donne donc rendez-vous dans un prochain épisode. Ciao! Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à prendre une minute pour aller lui mettre une note ou un commentaire sur votre appli de podcast préféré. Ça aide le podcast à remonter dans les classements et à se faire connaître.